Radio.
Je suis Younes Algarty, Managing Director d'Avisio Mentoring, la solution d'accompagnement personnalisée par le meilleur manager de la tech. Dans Lieutenant, j'ai décidé de mettre en lumière les premiers employés des grosses startups et scale-up qui cartonnent aujourd'hui et jouent un rôle clé dans l'ombre des fondateurs. Tous les 15 jours, je leur donne le micro pour vous offrir leur version opérationnelle et concrète de l'histoire. Ils vont nous dire quels outils, méthodes et erreurs ils rencontrent sur le chemin du succès. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir derrière le micro un vieux copain, Kevin Mert. Salut Kevin!
Salut Younes!
Alors Kevin, ça fait un moment qu'on se connaît, on a été à la même école de vente, Groupon, encore un. T'as fait pas mal de boîtes, on va faire uniquement aujourd'hui celle qui t'occupe, Sunday. Tu vas nous raconter tes débuts jusqu'à aujourd'hui, comment vous avez fait autant en si peu de temps. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est que Sunday ?
Avec grand plaisir, Younes. Donc, je m'appelle Kevin Mert, j'ai bientôt 36 ans, je suis marié et heureux, j'ai une petite fille de 11 mois maintenant et donc je bosse depuis 12-13 ans dans la tech. J'ai commencé avec toi chez Groupon où j'ai passé 5 ans. Chez Groupon, j'ai voyagé, j'ai ouvert le Canada pour eux et j'ai fini Regional Director sur le nord de la France. Ensuite, je t'ai suivi parce que tu es un peu mon modèle, Younes. On s'est rejoint dans une aventure qui s'appelle Balinéa, qui est une marketplace de soins de bien-être et de beauté, où je suis resté moins longtemps que toi. Je suis resté que un an parce que ma passion pour les massages et pour les coupes de cheveux est moins forte que la tienne. Et j'ai surtout quitté Balinéa pour rejoindre un projet que j'ai adoré et que j'ai aimé porter pendant 5 ans qui s'appelle Privatiseur, qui depuis a été renommé, qui s'appelle Joy, qui était à l'origine une marketplace événementielle, donc un site internet où vous pouvez réserver un bar ou un lieu festif pour vos événements, soit personnels, soit d'entreprise, et qui aujourd'hui est un business SaaS à destination des bars, des restaurants et des salles événementielles. Et depuis le début de l'année dernière, j'ai rejoint Sunday, Sunday qui est le moyen de paiement au restaurant le plus rapide au monde.
Et on peut même faire un coucou au passage à Valérie Abessera qui nous a réunis chez Balinéa à l'époque. Le moyen le plus rapide pour payer son restaurant au monde. Comment ça marche au tout début quand tu rencontres les fondateurs et que vous vous mettez d'accord pour bosser ensemble ?
Écoute, moi, l'aventure, elle a un peu commencé par hasard. J'ai un très bon copain qui s'appelle Nicolas Martin-Bouillet, qui est un ancien Uber, avec qui on fait parfois du tennis, à une époque où on pouvait encore faire du tennis. J'espère qu'au moment où vous écouterez ce podcast, on aura beaucoup moins de limitations sanitaires et que chacun pourra faire du sport comme il l'entend. Et pendant ces parties de tennis, on discutait du prochain challenge de Nico, et moi, j'essayais de le mettre en relation avec telle boîte ou telle boîte, etc. Et il ne trouvait pas chaussure à son pied. Et un jour, alors que je le battais de façon éhonté, il me dit « Kevin, en fait, c'est pas toi qui va me trouver mon prochain challenge, tu me suis dans ma nouvelle aventure. » Moi, je lui dis « ça ne m'intéresse pas du tout, ma femme est sur le point d'accoucher, je suis très heureux dans mon job, enfin, j'ai aucune raison de partir. » Il me dit « t'as un call cet après-midi avec Victor Luger, fondateur de Big Mama. » Puis je lui dis « mais moi, j'y connais rien en pizzeria, quoi. » Il me dit « non, mais discute avec lui, il va t'expliquer ce qu'il fait. » Donc moi, j'ai un call avec Victor qui m'explique qu'il est en train de créer une boîte, qu'il n'y a rien qui existe, que il prévoit de faire une très grosse levée de fonds et qu'il cherche des gens pour l'accompagner dans cette aventure. Et à l'époque, il y a 6 personnes, la boîte n'existe pas, il y a un espèce de proof of concept qui a été juste fait dans les restaurants Big Mama. Bon, c'est quand même 14 restaurants en Europe, etc. Donc des premiers signaux forts de traction. Et donc moi, je lui dis « je suis pas du tout disponible, j'ai pas du tout envie de changer de boulot, etc. » Et je dors pas pendant 2 jours, je fais des Excel, je pose tout sur papier. Et 3 jours après, je le rappelle, je lui dis « je suis all-in, je suis dans l'aventure, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les next steps, etc. » Et une semaine après, j'appelais mes associés chez Privatiseur pour leur expliquer que j'avais trouvé un projet que je pouvais pas faire passer, quoi.
Et à ce moment-là, la levée, elle est déjà conclue ou pas encore ?
À ce moment-là, il n'y a rien. À ce moment-là, il y a des QR codes sur des tables dans des restos fermés, parce qu'à ce moment-là, les restos sont en lockdown, et un test qui a été fait depuis juin dans 13 restos Big Mama et une idée, enfin juste une vision qui est de se dire les gens, dans 3 ans, ils vont probablement plus payer au restaurant avec des machines à carte bancaire. Les gens, ils vont arrêter de faire la queue quand ils cherchent à déjeuner le midi. Et les gens, quand ils sont à l'hôtel, ils vont pouvoir commander via leur smartphone pour leur room service, quoi. Et il n'y a que cette idée-là. Et quelques fous qui se disent bah, c'est sûr qu'il faut changer tout ça. Et je fais partie de ces fous à avoir tout plaqué en se disant, bah ouais, on va réussir, quoi.
Donc, on est un peu dans l'image la plus folle qu'on se fait de la start-up où on commence à bosser avant même d'avoir son contrat, avant même d'avoir quelque chose d'autre qu'une tape dans la main.
Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de business possible parce que tous les restos sont fermés, il n'y a pas de nom d'entreprise. Le projet à l'époque s'appelle Bip Bip, pour te dire le niveau où on était. Et il y a un deck avec 22 slides et un POC sur des restaurants, quoi. C'est tout ce qu'il y a à ce moment-là.
Et entre ce moment-là, mm-hmm, et ce qui va être une des plus grosses levées sur un PowerPoint, mmh, il se passe quoi ?
Alors, entre ce moment-là et ce qui va être effectivement une des plus grosses levées qui se passe sur un PowerPoint, il se passe quoi ? Première chose, et ça c'est Victor qui pourra encore mieux vous le raconter, quoi, te le raconter, mais il se passe quoi ? Il se passe qu'il y a trois types de personnes qui sont en contact avec nous à ce moment-là. Les premiers, c'est des talents, parce que pour build ça, pour build une vision aussi forte et pour la faire devenir réalité, il faut des talents qui l'ont déjà fait, qui veulent aller vite, etc., etc. Donc à ce moment-là, on crée le plan de recrutement et on cible tous les key profiles qu'il nous faut pour pouvoir kick off la boîte et on fait passer des entretiens et on cherche des fous, mais qui l'ont déjà fait avant. Il y a des restaurants, on commence à pitcher à des restaurateurs, à des groupes de restaurants, à des restaurants influents pour montrer ce qui s'est passé et pour faire comprendre tout ça. Et Victor et Christine parlent, eux, à des investisseurs pour finaliser la levée de fonds. Ça, c'est un petit peu notre quotidien de janvier-février de l'année dernière, avant que tout ça devienne réalité. Mais moi, quand je m'engage, la levée, elle est en... Enfin, je suis fou, mais la levée, elle est quand même en bon chemin et on sait que ça va se passer, quoi. Le risque est assez faible. Mais ça, c'est vraiment les trois typologies de personnes avec qui on discute à ce moment-là. Et en toile de fond, ce qu'on construit, c'est OK, comment on fait passer cette vision à un plan très clair, très propre, avec des étapes à suivre et dérouler ce plan-là, quoi.
Et alors, toi, dans ces trois types de personnes auxquelles vous parlez, tu parles à qui ? Tu vas direct chez les restaurateurs et retrouver tes premières amours du terrain ?
Moi, alors, à ce moment-là, quand je rentre, on va dire officiellement et à 100% dans la boîte, la première chose que je fais, c'est que je me pose devant une feuille blanche. C'est comme écrire un livre, quoi. C'est-à-dire, bon, comment on va écrire et dérouler cette aventure? Et je note mon plan et toutes les choses que j'ai à faire. Je fais mon énorme to-do list sur Notion avec, OK, Sales Playbook for Europe, machin. Je note tous les profils que je dois recruter, je note toutes les actions, toutes les choses que j'ai à créer, etc., etc. Et ça me prend plusieurs jours parce qu'il y a pas mal d'introspection, il y a pas mal d'interviews que je fais avec des copains ou des gens qu'on a en commun et des pairs sur le marché en disant, OK, bon, bah, Swile, comment vous l'avez kick-off? Doctolib, comment vous l'avez kick-off? Qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et je prends toutes ces bonnes pratiques-là pour rédiger mon playbook. Ça, c'est ma première semaine. Ensuite, à partir de la deuxième semaine, là, c'est recrutement, recrutement, recrutement. Pourquoi ? Parce que je dois lancer trois pays. Je dois lancer trois pays avec des forces commerciales présentes dans chacun des pays.
Des pays qui sont ?
Des pays qui sont à l'époque l'Angleterre, la France et l'Espagne. Ce qu'on veut, c'est... Donc moi, je me charge de ça. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Christine se charge d'ouvrir les US. D'accord, donc on se répartit les rôles comme ça. Moi, je m'occupe de la partie commerciale sur l'Europe. Christine se charge de la partie commerciale sur les US. La première chose à faire, c'est staffer. Donc, on définit les profils. Moi, je veux commencer avec un directeur commercial en Angleterre, un directeur commercial en France, un directeur commercial en Espagne.
On est d'accord que toi, jusque-là, tu n'as jamais vendu en Angleterre.
Moi, jusque-là, j'ai jamais vendu directement moi-même en Angleterre. J'ai vendu un peu en Espagne à l'époque de privatiseur, mais j'ai pas de réseau là-bas. Je ne connais personne en Angleterre. Je connais très, très peu de gens en Espagne. Après, sur la France, c'est plus facile. Donc, pour recruter, qu'est-ce qui se passe et comment on fait, quoi ? Pour la France, on active le network. Donc, mon premier réflexe, c'est d'appeler toutes les personnes que je connais dans l'écosystème sales, qui me donne des personnes qui sont soit en train de chercher un job, soit justement qui ont fini un job, etc., etc. Ce qui me crée ou des personnes avec qui j'ai aimé échanger ou collaborer dans le passé et qui veulent nous rejoindre. Donc, sur la France, très rapidement, j'ai une équipe de 10 personnes qui commence entre le 1er avril et le 15 mai. Et j'ai mes deux batchs de onboarding qui arrivent et ça déroule.
Donc, ça valide le sex appeal du projet direct.
Ça valide le sex appeal du projet direct. Un call, un closing, les gens nous rejoignent, etc., etc. Et ce qui accélère ça, c'est bien sûr le premier communiqué de presse, l'annonce de la levée. Bon, ça remet encore le sex appeal un peu plus haut. Angleterre et Espagne, même processus, sauf que tu tapes à plus un de relations, quoi. Donc, t'appelles tes relations, tu dis, tu connais des gens en Angleterre, ah oui, je connais X, je connais Y, et donc tu te fais louper auprès de personnes que tu ne connais pas en leur disant, bon, X m'a parlé de toi, voilà le projet, voilà ci, voilà ça. Et Christine Devindel ou Victor Luger ou Kevin Mert en Angleterre, là, ça commence à plus parler à grand monde. Pareil en Espagne, etc. Et donc là, convaincre ces personnes-là, ça devient encore un peu plus difficile. Et tu commences à screener tout le web et tous les directeurs commerciaux des boîtes web de ces pays-là. Et tu manges de l'entretien toute la journée. Et tu fais vraiment du 8h, 20h, entretien sur entretien à screener l'intégralité du pays.
Donc, tu fais ton sourcing toi-même, LinkedIn, j'envoie un message direct à tous les gens qui me paraissent dans le profil, j'attaque, je prospecte, je signe.
Exactement. Et on top of that, pour aller un peu plus vite, dès que la levée, elle est validée, on s'entoure de chasseurs. Ça va être Avisio sur la France, ça va être Aymar de Germini qui m'aide à chasser sur l'Angleterre. Sur l'Espagne, pareil, on fait appel aussi à une agence locale pour continuer à augmenter ce scope-là. Et tu continues avec ton direct outreach, plus tu as des chasseurs qui t'aident, et l'un plus l'autre fait que, assez rapidement, on se retrouve avec une équipe commerciale d'une trentaine de personnes à fin juin, quoi.
Fin juin, ça fait combien de temps depuis que tu as commencé à bosser sur le truc ?
Moi, j'ai commencé à bosser sur le truc en février, disons, recruter des gens, ça commence vraiment en mars. Donc, en moins de 3 mois, tu as 30 personnes sur le terrain qui sont onboardées et qui signent, quoi.
Et donc, sur ton fameux sales playbook, une des premières étapes, c'est le recrutement. Donc ça démarre vite et bien, 3 mois, 30 personnes. Mm. Le step d'après, c'est quoi ?
Step d'après, c'est vendre. Donc, pour vendre,
c'est bien ça.
Là, ça c'est ce qu'on aime. Pour vendre, la première chose, c'est vendre toi-même. C'est aller sur le terrain, prendre ton bâton, pousser des portes et te confronter à la réalité du terrain. Ça, c'est quelque chose que j'avais plus fait depuis effectivement un bon moment, mais tu te remets, il n'y a rien. Il y a 13 restos qui ont ça, le produit n'existe pas. Et tu te remets à rencontrer des restaurateurs, te prendre les objections que tes sales se prendront plus tard, tout noté sur un bout de papier, tu reviens le soir, tu as poussé 50 portes, tu as discuté avec 30 restaurateurs et tu notes toutes les objections que ces restaurants t'ont données, pourquoi ils signent, pourquoi ils signent pas, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce que le produit fait aujourd'hui, qu'est-ce que le produit ne fait pas aujourd'hui et qui devrait faire demain pour que ces personnes-là rejoignent l'aventure. Et tu notes, et tu notes, et tu notes, et tu rédiges ton sales pitch, tu rédiges l'intégralité de tes arguments et tu rédiges l'intégralité des réponses aux objections.
Et alors, qu'est-ce qui leur fait le plus peur et comment tu les rassures, toi, du coup ?
Donc, au tout début, au fur et à mesure de l'histoire de la boîte, bien sûr, les objections et les craintes changent parce que, ton produit change et, deux, surtout, la vision qu'ont les restaurateurs de ton produit, ils changent aussi parce qu'il y a des pairs à eux qui utilisent ton produit et qui ont pu leur en parler. Mais au tout début, ce qui fait peur aux restaurateurs, c'est un, ils n'ont jamais vu ce produit-là dans la vraie vie et ils ne savent pas comment ça fonctionne, quoi. Donc, ils ne te croient pas. C'est la première chose, c'est je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler, je ne te crois pas. La deuxième chose, donc Sundae, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Sundae, c'est très simple comme produit, hein. On pose des QR codes sur les tables des restaurants. Le client scanne le QR code, il peut afficher le menu directement sur son smartphone. Ça, vous avez tous vécu déjà cette expérience, quel que soit où vous habitez. La deuxième chose, c'est que dès que l'addition est ouverte sur le logiciel de caisse du restaurant, vous avez un accès direct à cette addition que vous pouvez régler avec 4 moyens différents de la régler. Soit vous réglez l'ensemble de l'addition, soit vous mettez un montant libre, je veux payer 25€, soit vous séparez l'addition en X parties égales, on est 4, on divise par 4, soit vous allez sélectionner les différents items que vous souhaitez payer. Je vais prendre une entrée, un plat, un Coca Zéro. Et ensuite, vous avez le choix de régler avec vos différents moyens de paiement, votre carte bancaire, Google Pay, Apple Pay, vos cartes tickets restaurants, Swile, Edenred, etc. Et vous réglez et vous pouvez directement télécharger votre reçu. C'est simple comme bonjour et vous réglez l'addition en moins de 10 secondes.
C'est simple comme bonjour, c'est presque de la magie et du coup ça les étonne un peu et ils y croient pas trop.
Ça fait peur. Quand on dit ça, ça fait très peur. Et l'objection principale des restaurateurs quand on leur présente ça, il y en a deux. La première, c'est les gens vont pas l'utiliser. Je ne crois pas que les gens veuillent payer comme ça. Et la deuxième objection, c'est comment je sais que les gens ont payé ? C'est une objection qui est très simple parce que proche du terrain et c'est le vécu d'un restaurateur au quotidien. Ça, c'est les deux premières objections. Bon, la première, on a la chance d'avoir un test dans 13 restaurants en France, en Angleterre, en Espagne sur lequel on a de la data. D'accord ? La data de Sundae à l'époque, elle est très simple. Il y a 4 chiffres clés à retenir. Le premier chiffre clé, c'est quand on pose les QR codes sur la table d'un restaurant, il y a 60% des gens qui payent via Sundae. On pose le QR code, il y a plus de la moitié des gens qui vont payer via ce moyen de paiement-là. Ça tue dans l'œuf la première objection. les trois autres chiffres clés à retenir, c'est on fait tourner les tables 12 minutes plus vite. Pourquoi ? Parce que j'ai pas à lever la main, j'ai pas à attendre que le serveur vienne me voir, j'ai pas à attendre que le serveur apporte la machine à carte bleue, j'ai pas à lui demander mon reçu, etc. Donc les tables peuvent tourner plus vite, ce qui, le midi ou le soir, en fonction des restaurants, peut faire un gain de chiffre d'affaires monumental pour le restaurant. La troisième, c'est qu'on augmente le tips de 40%, parce qu'on demande le tips à chaque fois. Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous voulez laisser du tips ? Moi, quand je laisse pas de tips, c'est que j'ai pas de monnaie dans les poches.
Et ça arrive.
Et ça arrive souvent et de plus en plus. Et le quatrième chiffre clé, c'est qu'on augmente le panier moyen de 10%. Pourquoi ? Parce que quand je sais que j'ai le temps de prendre un dessert et que j'ai pas peur de rater mon meeting de 14h, en fait, je le prends ce dessert, parce qu'on est gourmand dans la vie. Toi, plus que d'autres, mais...
Moi, un peu plus que d'autres.
Toi, un peu plus que d'autres. Et donc, ces quatre chiffres clés répondent à la première objection assez facilement. La deuxième objection, qui est absolument logique et compréhensible par les restaurants, c'est « Mais comment je sais que les clients, ils ont payé ?» Et ça, faut construire le pitch, parce que nous, on avait déployé le produit seulement dans des restaurants Big Mama où les serveurs, bon bah notre patron, c'est aussi le patron de Big Mama, donc c'est aussi plus simple de faire les premiers tests et d'emporter le staff des restaurants avec nous. Ce qu'on voit sur les tout premiers restaurants qu'on déploie à Paris, c'est Cali Sister, c'est Tiger Milk, c'est des restaurants comme ça, c'est qu'ils disent qu'il n'y a même pas de sujet de walk-out. En fait, les gens, quand ils vont au restaurant, ils veulent payer. Mais nous, ce qu'on doit construire après, au fur et à mesure du temps, c'est aussi des moyens de rassurer, de mettre les restaurateurs, de mettre les serveurs, de mettre tout le staff dans les meilleures conditions. C'est de développer des outils pour leur permettre d'être encore plus à l'aise. Mais bon, tu vois, le premier produit, on l'a lancé en avril. Aujourd'hui, on est en janvier quand on parle. Là, on sort juste l'application. Nous, on appelle ça la Waiter App, donc l'application pour les serveurs. C'est une application qui te donne exactement les différentes transactions qui sont passées, les tables qui sont ouvertes, les tables qui sont fermées. Donc là, tout le monde est dans un grand confort. Mais pendant 7-8 mois, bah, il a fallu itérer, répondre d'un point de vue technologique à cette question, répondre d'un point de vue commercial à cette question. Ça, ça a été une vraie objection pendant très longtemps qui aujourd'hui se traite très facilement.
Et aujourd'hui, vous l'avez quasiment plus finalement.
Aujourd'hui, on l'a toujours, mais en tout cas, on a des réponses très visuel à apporter aux restaurateurs et tous les restaurateurs sont un peu dans leurs chaussons pour former leur staff à utiliser Sunday.
Ok, donc toi tu fais tes armes sur le terrain, tu vas voir un certain nombre de restaurateurs, tu fais ton pitch, tu as recruté tes 30 personnes. Sur les 30 personnes que tu as recrutées, c'est tous des biz devs qui vont bouffer du terrain ou il y a d'autres types de jobs qui commencent déjà à structurer l'équipe ?
Dans mon équipe commerciale, elle est divisée en trois sous-équipes. Première équipe commerciale, Field Sales. Donc, Younes et moi, on a été élevés à la sauce Groupon. Il faut vous imaginer que dans notre éducation professionnelle, on a recruté des commerciaux à Angers, on a recruté des commerciaux à Cherbourg, sur le terrain, qui allaient de rue en rue, de porte en porte pour convaincre des local shops de bosser avec Groupon.
Et à l'époque, on disait commerciaux de terrain, d'ailleurs.
À l'époque, on disait commerciaux de terrain. Donc, moi, je dis Field Sales maintenant, parce que c'est le privilège de bosser dans une boîte internationale. Effectivement, les premières personnes que je recrute, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, après les directeurs commerciaux, c'est des commerciaux sur le terrain. On ajoute à cette équipe-là des commerciaux qu'on appelle Enterprise Sales. C'est des personnes dont le métier va être de se focaliser sur des comptes qui font un certain niveau, une certaine volumétrie d'affaires annuelle. C'est des chaînes comme Groupe Agap, Groupe Barrière, etc., etc. Et enfin, et ça, c'est arrivé à partir de septembre, on commence à créer dans les différentes équipes une équipe qu'on appelle Inside Sales, dont le métier est de faire deux choses. La première, c'est traiter les demandes entrantes sur des secteurs où on n'a pas de commerciaux terrain. Et le deuxième, c'est de faire de l'outbound sur des zones où on n'a pas non plus de commerciaux terrain. Et donc typiquement, chez Sunday, on n'a pas de commerciaux à Lyon, on n'a pas de commerciaux à Nantes. Bah, ces Inside Sales-là, qui sont une équipe aujourd'hui de 6 personnes en France, ils vont ouvrir ces villes-là via le téléphone et ils vont faire un sprint de 2, 3, 4 jours dans cette ville-là par mois pour aller closer les différents comptes qui il manque un petit quelque chose et souvent ce petit quelque chose c'est le contact humain, c'est serrer la main et se voir en vrai quoi.
Et eux là qui sont au téléphone, donc les Inside Sales, tu leur as pas mis en place tout un outillage de vente automatisé avec des mails, des livres blancs, etc. Ils font ça à l'ancienne, ils téléphonent, ils appellent les restaurateurs et ils y vont.
Alors moi, si on reprend au début, 1, j'ai recruté. 2, on vend, on construit le pitch, on itère, on l'améliore, etc. En parallèle de cette phase-là, et je pense que pour faire un business qui scale, c'est impératif de passer par cette phase-là, on construit toute notre backbone, CRM, téléphonie, emailing, etc., etc. Et ça, on le commence très, très tôt. C'est... En mars, on avait un Salesforce rollout. La boîte n'était pas créée, que notre Salesforce était déjà rollout et déjà prêt. On l'a construit en 2 semaines en bossant la nuit à finir de coder les différents record types et coder les différents chemins de...
Paramétrer un Salesforce, c'est un peu ta passion.
Paramétrer un Salesforce, c'est un peu ma passion. Là, j'ai eu la chance de le faire avec un très bon copain qui s'appelle Hubert Mézin, qui m'a beaucoup aidé et qui nous a aidé à kickstart le projet.
Dont la boîte s'appelle Turnk. Salut Hubert.
Salut, on te fait un coucou. Et on a fait ça à une vitesse vraiment éclair, mais c'est aussi ce qui a permis, day one, de savoir tous les comptes à qui on parlait, de record nos activités, de planifier des follow-up, etc. etc. Et on l'a fait très tôt, et je pense que c'est un des points qui fait le succès, et en tout cas l'immédiateté des résultats qu'on a eus.
Ok, et tout ça, là, cette partie colonne vertébrale de la vente avec l'outillage, c'est toi solo ou il y a déjà une petite équipe qui se construit en sales ops?
C'est moi solo. C'est vraiment donc, toute la partie sales ops de mars à septembre, si je ne dis pas de bêtises. Je suis tout seul à gérer ça à 100% avec Hubert qui est en extérieur, en externe de la boîte et je gère ça à 100%. Le premier sales ops qui arrive, il nous rejoint début septembre, Gaspard, que je salue s'il nous écoute, qui me sauve 20% de mon temps dès son arrivée. Mais je gère toute cette partie-là de A à Z sur les 4-5 premiers mois de la boîte.
Donc, tu confirmes qu'un directeur commercial, quand il lance son nouveau business, les sales ops, au départ, c'est quand même pour sa pomme.
En tout cas, je pense que c'est une corde à l'arc des directeurs commerciaux d'aujourd'hui qui est assez essentielle. Un directeur commercial qui ne fait que vendre aujourd'hui, dans un projet de scale-up, attention, il y a 1000 boîtes où un directeur commercial il est là pour vendre et s'il le fait très bien, c'est super et c'est un gage de réussite dans l'organisation. Mais 100% des head of sales qu'on a aujourd'hui chez Sunday, dans tous les pays, Canada, États-Unis, Angleterre, Espagne et France, c'est un peu des geeks quand même. Il y a 20% de leur cerveau où ça reste des personnes qui sont capables de crafter de la data, de se construire leur propre reporting, de se construire leur dashboard d'activité, qui savent vraiment aller pointer les chiffres et qui savent les suivre et qui ne sont pas que des machines à vendre, loin de là.
Et alors, une fois que tu as fait toute cette partie de création et de construction de la base de l'équipe commerciale, c'est quoi le gros marqueur d'après qui a transformé ton job ?
Les différentes étapes, c'est un, construction de cette équipe commerciale. Notre métier, c'est d'aller chercher du client. D'accord. Donc, chercher du client, tu peux le faire de différentes façons. D'accord. Donc, tu as deux façons principales de le faire. Soit tu fais de l'outbound, donc tu vas chercher les clients, tu vas les voir, ils ne te connaissent pas ou ils te connaissent peu finalement. Soit tu vas aller faire de l'inbound. D'accord. Donc, quand tu commences à penser accélération de ton business, tu te dis, bon, sur l'outbound, comment accélérer et comment m'améliorer? La première chose, c'est améliorer tes taux de conversion, améliorer tes taux de transformation, travailler plus, mieux organiser tes sessions, etc. etc. D'accord ? Donc, tu as tout un tas de parties qu'il faut améliorer et qu'il faut fine-tuner au fur et à mesure.
Donc, toujours plus de playbook, toujours plus de coaching et de formation.
Toujours plus de feedback donné par l'équipe, toujours plus de collaboration internationale en disant « Ah, mais moi, j'ai trouvé ça, etc. etc. » Et donc, tu améliores tout ce que tu as créé et tu continues à staffer. Tu staffes et tu staffes et tu staffes. Ça, c'est la manière organique de croître, c'est se dire si j'empile les sales et si je les fais être plus efficaces au fur et à mesure, j'ai un résultat qui fait qu'à la fin il est meilleur de X% de mieux tous les mois, etc. etc. Ensuite, tu te dis comment je fais en sorte que, en plus d'améliorer mes sales, de façon naturelle je vais leur faire avoir une meilleure performance. Là, c'est toute la partie inbound. D'accord ? Donc, l'inbound, il y a plusieurs canaux d'acquisition. Moi, ce que je fais assez régulièrement, c'est de faire des dessins où je me dis tous ces canaux d'acquisition de leads, comment on les divise et comment on améliore chacun d'entre eux. Chez Sunday, en l'occurrence, on a un canal d'acquisition qui est le marketing, ça va être le PR, etc., etc., qui va être l'événementiel. On va faire des salons, on va faire des événements customer, on va faire des launches de Sunday dans des villes où on va inviter des restaurateurs, etc., etc. Il y a le web qui lui-même est divisé en deux parties, l'inbound et l'outbound. Et tu te dis, il faut qu'on construise 100% de ces verticales-là, parce qu'en fait, elles n'existent pas, ces verticales. Enfin, encore une fois, tu es dans une boîte et... T'es toujours sur la feuille blanche, il n'y a rien qui existe. Ou même, tu commences à avoir des sales qui vont vendre et tu te dis, comment on construit tout ça? Donc, chez nous, on a eu la chance très très tôt dans le projet d'avoir Johan Bisson avec nous, qui a créé la marque, etc., etc., qui est quelqu'un de formidable. un des actes qui a fait accélérer fortement Sunday, c'est la première communiqué de presse qui a été absolument délirant. On lance la marque 1er avril, on lance le communiqué de presse 1er avril, on a 600 leads en 4 jours, quoi. Donc là, tu es en face de tes deux sales et toi, et tu as 600 leads à traiter. Et donc là, bon, bah, t'es au pied de la montagne et tu la détruis au fur et à mesure, et t'appelles, et tu bookes des meetings, etc., etc. Ça a été vraiment un acte fondateur où on s'est dit, OK, le go-to-market, il est bon, quoi. C'est vraiment le bon moment et ça a fondé ça. Et après, au fur et à mesure, tu construis chacune des petites briques et tu reprends, et tu recrutes, et tu traînes, et tu reprends la feuille blanche avec la personne, et après, tu déroules et tu fais ta to-do, quoi.
Donc, premier gros marqueur générateur de brand awareness ou de conscience des gens de votre marque, c'est ce premier communiqué de presse. Le deuxième ?
Deuxième où là, on a vraiment passé une étape qui me vient en tête, qui m'a vraiment marqué, c'est le premier gros salon qu'on a fait. Donc, dans la restauration, il y a un très gros salon à Lyon qui s'appelle le CIRA, d'accord, qui est le salon de la gastronomie, qui est un des plus gros salons européens, où un mois avant, on s'est dit « Merde, il y a le CIRA dans un mois. » Le CIRA, c'était en septembre, je crois. On ne s'est pas registré, on n'a rien. Moi, j'appelle Johan, je fais « Johan, les salons dans la strat on l'a pas marqué, quoi. Dans la feuille blanche, là, on a oublié ça. Ah merde, putain, il faut le faire, etc. » On appelle, il y a eu un désistement 2 jours avant sur un stand super central. Coup de chance, coup de bol. Donc, Johan, il boucle le stand et on part d'une feuille blanche. On n'a jamais fait un stand, on n'a jamais fait un salon. On construit ce stand-là et on est en toute franchise et on a été étonné de ça, mais on a été l'attraction du salon et on s'est dit... Ouais, l'accueil réservé par les restaurateurs à notre produit est quand même assez fabuleux et ça nous a fait passer une étape en termes de confiance dans l'équipe commerciale, de voir des centaines de personnes qui nous disent tous « Ok, peut-être que c'est pas pour moi maintenant, mais c'est sûr que dans 6 mois j'y viens » ou des choses comme ça qui nous ont encore fait passer un niveau, je trouve, en termes de brand awareness qui a été génial. Et ça s'est revalidé à Londres, à Madrid, à Los Angeles, dans tous les salons où on va. À chaque fois, on a quand même un accueil qui est assez dithyrambique, quoi.
Les restaurateurs et Bruno Le Maire.
Les restaurateurs, Bruno Le Maire, on a quelqu'un dans l'équipe qui a une forte personnalité et qui, quand elle se met un challenge, elle parvient souvent à le réaliser. Donc Caroline Savoie, si tu m'écoutes, je te fais un coucou, qui s'était mis comme challenge d'aller attraper et saluer Bruno Le Maire. Mais sur le CIRA, elle a même attrapé Emmanuel Macron, ce qui nous a fait chaud au cœur et ce qui a fait palpiter son petit cœur, comme elle le dit.
Et on attend le prochain communiqué d'Emmanuel Macron qui annoncera la... XIM licorne.
Écoute, espérons-le.
Entre ces deux moments-là, qui marquent des étapes importantes pour la boîte, qu'est-ce qui change dans ton job à toi ?
Qu'est-ce qui change dans mon job à moi ? C'est que je vends de moins en moins, parce que avril-mai, je vends énormément. Et plus de 50% de mon agenda, c'est des pitchs, et je suis une machine à pitch à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de sales, quoi. La deuxième vague des sales en France, elle arrive début mai. Et jusque-là, bah, faut bien traiter les rendez-vous jusqu'à ce que les sales y soient ramp-up. Toi, tu continues à vendre, tu fais tes meetings, tu onboardes des restaurants, etc. C'est super, mais ça ne scale pas dans le temps. Donc, qu'est-ce qui change entre, on va dire, mars et septembre ? C'est que je m'éloigne de plus en plus de la vente et que les seuls meetings que je fais, finalement, bah, ça va être des meetings avec des grosses chaînes ou des grosses marques parce que le sales m'invite à venir. Mais ce qui change, c'est que je passe d'un statut de vendeur et crafter, on va dire, du pitch commercial à un statut de 100% manager et d'anticipation des prochains moves, d'anticipation de la structuration de l'équipe et d'amélioration au quotidien de l'intégralité de ces KPI. En septembre, je fais plus de meetings, quoi. Ça m'arrive quasiment plus et je donne 100% du ownership de ça à chaque directeur commercial local qui, eux, leur métier, c'est d'accompagner les sales dans leur rendez-vous, quoi.
Bah c'est bien parce que tu fais la transition avec ma question d'après. J'allais dire, est-ce que à ce moment-là, tu as déjà commencé à avoir du management intermédiaire ou pas encore ? Et donc, j'en conclus que oui, tu as des directeurs commerciaux régionaux. Comment tu t'organises du coup sur la pyramide de sales ?
Alors, comment est répartie l'équipe chez nous ? L'équipe, elle est répartie de façon assez simple, hein. On a ce qu'on appelle une organisation matricielle. Je dis assez simple et je pars sur organisation matricielle. Chaque directeur commercial local reporte un general manager, lui-même local, qui lui est proche des pays, d'accord ? Et moi, j'ai ce qu'on appelle une dotted line, donc j'ai un management horizontal avec chacun des directeurs commerciaux pour faire en sorte que le playbook soit le même dans l'intégralité des pays, qu'on suive les mêmes KPI, qu'on ait les mêmes scorecards, qu'on ait les mêmes routines commerciales et que quand quelque chose de bien est fait en Espagne, on le roll out à Los Angeles, quoi, grosso modo. À ce moment-là, l'organisation, elle est comment ? On a plusieurs phases de rollout d'un pays. La première phase de rollout d'un pays, c'est recruter un patron des ventes sur ce pays, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va crafter l'équipe. La phase 2 du rollout, c'est déployer une première équipe de commerciaux terrain et recruter à minima un enterprise sales pour s'occuper des gros comptes du pays. Phase 2. Phase 3, continuer à faire croître cette équipe de field sales et éventuellement avoir un premier layer intermédiaire que nous on appelle team lead. D'accord ? Faire grossir un petit peu l'équipe enterprise selon la taille du marché enterprise. D'accord ? Donc, typiquement aux US, on a 8 enterprise sales, en France, on en a 3. Ça dépend de la taille du pays. Et commencer à construire l'équipe d'inside sales. Donc là, tu recrutes tes deux premiers inside sales qui sont managés par le directeur commercial. Phase 4, keep the scale sur les field sales, keep growing sur enterprise sales et faire grossir l'équipe d'inside sales et mettre un autre layer de management team lead inside sales sous coup-là. Donc en gros, là, tu commences à avoir une équipe de 25 personnes dans un pays, quoi.
Alors maintenant que tu as ces management intermédiaires et que tu t'es éloigné du terrain, c'est quoi ton rôle vis-à-vis des commerciaux de terrain du coup ?
Alors, ton rôle vis-à-vis des ça c'est une super bonne question et c'est un sujet, je trouve, qui est difficile à gérer dans une phase qui augmente autant, enfin qui augmente si vite, on va dire. Parce que finalement, sur la France, c'est moi qui ai commencé en tant que directeur commercial français et à un moment, tu t'éloignes de ça. Et les personnes que tu voyais au quotidien, tu te tapes dans la main quand il y a un succès, quand il y a un échec, tu le partages, etc. Bah, du jour au lendemain, tu les vois quasiment plus parce que t'es dans le train, tu vas à Londres, tu machins, etc. Et ça, c'est un déchirement, quoi. Tu abandonnes tes enfants, c'est affreux. Mais t'as besoin de le faire pour deux raisons. La première, c'est que toi, t'as besoin de temps et que, en fait, taper dans la main des gens, etc., bah, ça prend énormément de temps et d'énergie. Et la deuxième, c'est qu'il faut aussi laisser la place à la personne qui prend ce rôle-là et qui a besoin aussi de changer le management style, qui a besoin de changer la routine. Donc, c'est une période qui est un peu compliquée. Et ton rôle à toi, c'est de laisser la place aux autres pour qu'ils le fassent, mais de toujours incarner la vision, de replacer les priorités quand c'est nécessaire. Parce que parfois, quand on a la tête dans le guidon, c'est assez facile en fait de prendre vite une route de campagne et d'oublier que tu vas plus vite sur l'autoroute, quoi. Et donc, réorienter, c'est fixer les bons objectifs. Et c'est aider quand il y a besoin et de rester aussi accessible que possible, quoi.
Tu as parlé là à l'instant pour tes managers, directeurs régionaux, de mettre en place leur propre routine. Mm-hmm. C'est un sujet qui revient souvent dans le management commercial, c'est les routines de management. Mm-hmm. Tu peux nous parler un peu de ce que vous avez mis en place, vous, chez Sunday, comme routine de management sales ?
Ouais, donc on a trois valeurs chez Sunday, hein. Simple, truth, trust, beyond. Dans une logique de simplicité, ce qu'on veut, c'est de pas surcomplexifier la management routine, d'accord ? Donc nous, ce qu'on dit, c'est que une bonne routine d'un employé, pas forcément un sales, mais un employé chez Sunday, il a plusieurs moments importants. Le premier moment important qu'il a, c'est un management meeting toutes les semaines avec son N+1, sur lequel il y a un template de 13 questions auxquelles il répond et qu'il partage avec son N+1, une page Notion structurée sur laquelle parfois on va avoir des sujets annexes qui sont des sujets importants à garder en tête. Il a un espace partagé en fonction des personnes, soit ça va être sur un Google Keep, soit ça va être sur une page Notion, sur lequel on note tous les sujets qu'on n'a pas le temps de traiter dans la semaine et qu'on va dépiler pendant le management meeting. On a tous les semestres un semester catch-up sur lequel on revient sur tout ce qui a été fait sur la semaine. Il a une scorecard pour chacun des trimestres, pour chacun des semestres, selon les profils sur lesquels il y a l'intégralité des zones d'action et des KPI à atteindre. Il y a des rendez-vous un peu plus macro et plus team level, on va dire. Un weekly Q&A avec les founders. Donc les founders répondent, 350 employés de Sunday, et on répond, toute question est acceptée et toute question est répondue pendant ce moment-là. On a un kick-off meeting tous les lundis matin, 9h. Et on a une session de training tous les mercredis matins sur des sujets qui sont apportés par l'équipe, voire même qui sont répondus par l'équipe. Donc, typiquement, on a une personne qui est vraiment très forte dans tel ou tel domaine. Cette personne-là va préparer une presse, donner ses meilleures pratiques, donner des conseils, etc. et va pouvoir échanger avec les autres team members qu'elle a. Tout dernier sujet, on a ce qu'on appelle un rituel qui s'appelle le PCP, Progress, Challenge and Plan, toutes les fins de semaine, où sur Slack, chaque employé de la boîte poste 3 bullet points, 3 progrès, 3 challenges rencontrés, 3 plans pour la semaine suivante, dans une seule et même boucle où l'intégralité des gens postent ça, et une boucle en parallèle pour les leaders de département qui, eux, résument tout ce que leurs employés ont dit, pareil, sur 3 bullet points à chaque fois. Ça, c'est notre routine globale de la boîte.
Pour une boîte qui est aussi jeune et qui a employé aussi vite autant de monde. J'ai l'impression que vous avez quand même des process et des routines qui sont méga structurés. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui ont connu ces trajectoires-là sur lesquelles c'est un peu plus en freestyle. Ça vient d'où ça? Ça vient de vous qui avez été recruté à ce niveau head of VP au début qui était plutôt capé? Ça vient des fondateurs qui sont des brutes d'orgueil et de rigueur?
Je pense que ce qui fait pour l'instant de nous une boîte qui, entre guillemets, et je dis ça encore une fois avec beaucoup d'humilité, etc., mais qui sort un tout petit peu de l'ordinaire des scale-up que moi ou toi on a pu connaître, c'est que on a commencé avec des gens qui sont second, third, first time entrepreneurs, et on a fait des centaines et des centaines d'erreurs, et on sait que c'est pas les meilleures façons d'engager les collaborateurs, quoi. On sait qu'en fait, quand il y a une routine qui est claire, tu es très vite libéré de plein d'angoisses, quoi. Quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu sais où tu dois aller, quand les objectifs sont clairs, quand on met des chiffres sur des mots, enfin, c'est des choses qu'on répète beaucoup. Et si vous traînez sur LinkedIn, que vous lisez des bouquins, c'est dit et redit et re-redit par tous les entrepreneurs à succès. Mais il faut faire en sorte que ça arrive. Et encore une fois, comme on partait d'une page blanche, on s'est dit, bon, bah, c'était quoi les choses qui fonctionnaient bien dans nos précédentes boîtes? Le PCP, ça vient de Christine qui faisait ça chez Mano Mano. Le management meeting, c'est copier-coller de ce qui est fait chez Big Mama, etc., etc., etc. Les kick-off meetings du lundi matin, moi, je ne vais pas t'apprendre ça, mais on a connu ça des centaines de fois chez Groupon et tous ceux qui nous écoutent connaissent probablement ça aussi chez eux. Mais toutes ces routines-là, c'est des choses qu'on a expérimentées et on a pris le meilleur de tous les mondes, et on a des anciens de Uber, on a des anciens de Deliveroo, on a des anciens de Mano Mano, on a des anciens de Revolut, on a des anciens de XYZ, et ça fait un patchwork de toutes les meilleures pratiques de l'ensemble des boîtes, et le tout dans un esprit très collaboratif où quand il y a une idée qui est suggérée, elle est évaluée, et si elle est bonne, on le fait, quoi.
Canon. Et alors, vu que finalement c'est un ensemble de gens qui étaient bien expérimentés en entrepreneuriat sur l'étape de 0 à 1, sur l'étape de 1 à 5, etc., est-ce qu'il te reste de la place, à toi, Kevin, pour apprendre?
Ah, mais moi, j'ai jamais scale aussi vite une boîte, quoi. J'ai jamais vu un scale de 0 à 350 en 9 mois. Donc, ne serait-ce que par la vitesse d'exécution, j'apprends tous les jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la densité de talent qu'il y a autour, qui fait qu'en fait, chaque personne avec qui tu discutes, t'apprends énormément parce que il ou elle a les bonnes idées, elle ou il a vu X, Y et Z, et tu te nourris de tout ça au quotidien, ce qui fait que tu grandis énormément. En tout cas, moi, Kevin, sur quoi j'apprends énormément, c'est travailler avec des personnes de nationalités différentes tous les jours. Je commence ma journée avec un Italien, j'enchaîne sur un Portugais, ensuite je pars à Londres, dans 2 semaines je vais à New York et Atlanta. Enfin, j'ai tout ce mix de cultures et d'expériences différentes fait que honnêtement, je grandis énormément et je suis ravi dans cette expérience-là.
Donc toi qui es entouré de tonnes de gens dont tu apprends tous les jours, est-ce qu'il y a une personne qui sort un peu du lot et de qui tu as le plus appris?
Ok, super question. Donc dans l'orga, moi, une des personnes avec qui je travaille énormément, que je salue également, c'est Charles Conque, qui est un ancien Uber. On est aux antipodes l'un de l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis fou furieux, les cheveux en bataille, etc. Lui, il est très calme, très posé, les cheveux également en bataille. Mais c'est à peu près notre seul trait de caractère, enfin, trait physique, on va dire, commun. Je trouve qu'il a une capacité sur chacun des sujets où il faut prendre une décision rapidement à prendre le contrepoint de tous les arguments naturels qui me viennent personnellement, qui m'épate, et de prendre un recul délirant sur chacun des sujets pour se dire, ok, oui, moi je pense direct plan d'action, micro-éléments à faire, etc. Et lui, il a toujours l'approche très macro de tout ça. Et à chaque meeting que je fais avec lui, je me dis, mais Kevin, arrête de partir directement dans l'hyper-détail et l'hyper, tu sais, la page Notion avec le petit élément qui va te faire une to-do que tu vas cocher au fur et à mesure avec des deadlines, etc. Et lui, il prend toujours énormément de recul par rapport à ça. Et typiquement, c'est quelqu'un qui m'apporte énormément au quotidien, quoi.
Ok, alors dans les étapes d'évolution de Sunday, il y en a une qu'on n'a pas abordée, c'est la levée d'après, parce que vous n'en avez pas fait une seule. Mm-hmm. Elle était quand cette levée?
Écoute, elle a été validée en juin, je pense qu'on l'a annoncée en septembre.
Ok, donc elle marque aussi un petit peu l'évolution et un passage à une échelle différente à partir de septembre. Ouais. Qu'est-ce qui change avec cette levée?
Alors qu'est-ce qui change? Plusieurs choses. La première chose, c'est que cette levée, elle est dans l'ordre des choses, on va dire. Ça valide le projet. C'est à l'évidence notre projet, vu le niveau de burn et de recrutement qu'on avait, etc. C'était un projet qui allait être equity intensive et qui allait nécessiter d'aller chercher des rounds suivants. D'accord ? Cette levée-là, donc, elle n'était pas étonnante pour nous parce qu'on savait que c'était la trajectoire qu'on voulait prendre, mais ça validait le marché, ça validait la vision et ça nous permettait d'avancer plus sereinement là-dessus. Ça permet d'accélérer. Pourquoi ? Parce que quand tu as une plus grosse profondeur financière, tu sais que tu peux staffer plus, tu sais que tu peux investir plus, etc. etc. Donc, business-wise, ça change quoi ? Tu recrutes plus, tu envisages d'ouvrir des nouveaux territoires, tu envisages des M&A qui sont en l'occurrence des succès parce qu'on valide le rachat d'une boîte au Canada qui nous permet d'avoir notre footprint canadien et de commencer à scaler l'équipe canadienne. Ça te permet surtout de recruter une équipe tech plus large et de pouvoir te dire, bon, ok, le pay at table, c'est bien, mais c'est la première brique, et de commencer à anticiper les sujets suivants qui vont être chez nous, notamment l'order and pay, qui va être une grosse brique également à développer. Et quand vous écouterez ce podcast, probablement, il y aura déjà plusieurs dizaines de restaurants qui seront live sur ce produit. Et en bout de course, parce que c'est aussi une des grosses briques du premier semestre, on valide l'ouverture de 7 nouveaux pays sur S1 2022. Donc là, on est en train d'ouvrir Portugal, Italie, Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas. En gros, ça valide juste ton scale, quoi. Et donc, tu dois aller encore un peu un cran plus loin dans prendre du recul, structurer, avoir la même routine dans chacun des pays, traduire tout ce que tu as déjà fait. Enfin, c'est
ouais, parce que pour se faciliter la vie, tous les pays que tu as cités, ils ont une langue différente.
Exactement. Certains ont une monnaie différente. Ils vont avoir des règles de tips différents. Les restaurants vont pas être opérés de la même façon, etc., etc. Donc, ça, c'est le plaisir et le bonheur d'être en Europe, quoi, qui est un continent magnifique, mais qui, d'un point de vue business, est super compliqué parce que tu as plein de micro-territoires versus les États-Unis où tu as un énorme territoire, mais où tout le monde paye avec la même monnaie, parle la même langue, ou a plus ou moins la même façon de penser. L'Europe, c'est encore un autre morceau. Ouais.
Dans l'actualité brûlante de Kevin et de Sunday, là, donc on est le 19 janvier, comme tu disais tout à l'heure, et il n'y a pas très longtemps que tu as annoncé que tu étais devenu le Chief Sales Officer de Sunday. Concrètement, ça veut dire quoi et ça change quoi ?
Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Tout ça change quoi ? Moi, jusque-là, j'avais un scope très européen, d'accord ? Mes direct reports étaient tous européens. Et ça valide le fait que je passe sur un rôle un peu plus global avec des direct reports de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux US et au Canada. Pour moi, ça change quoi ? Ça change que j'ai tout un nouveau marché à apprendre et comprendre, parce qu'on ne vend pas de la même manière aux États-Unis qu'on le vend en France, on ne fait pas du territory management de la même façon en Europe et aux États-Unis. C'est des logiques de segmentation, c'est des logiques de go-to-market différentes, le marketing n'est pas le même, etc. etc. Donc, pour moi, c'est super intéressant parce que ça permet de scinder un peu plus le playbook. Autant je pense que sur des pays européens, ton playbook peut être assez largement similaire. Autant aux États-Unis, là, tu vas avoir des logiques qui sont assez différentes. Ça permet d'ouvrir pas mal tes horizons et tu es obligé aussi de manager différemment. En tout cas, les head of sales européens et les head of sales américains, je les manage pas du tout de la même façon. Et donc en parallèle, moi j'ai deux gros rôles, hein. Je fais toute la partie sales et je fais toute la partie growth avec Georges Abbey, qui est un ancien de Too Good To Go, l'ancien head of growth de Too Good To Go. On traite les deux continents et sur la growth, de la même façon, les playbooks sont pas les mêmes, les CAC, donc les coûts d'acquisition sont pas les mêmes, les coûts par lead sont pas les mêmes, etc. etc. Et donc tu as deux grilles d'analyse complètement différentes, c'est deux mondes complètement différents. Et sur la partie plus la sales ops, pour revenir à ce qu'on disait au début, là, ça t'amène un layer de complexité monumentale parce qu'en réalité, chaque sous-région des États-Unis est l'équivalent d'un pays en Europe. Et donc là, tu dois te creuser le cerveau sur okay, comment j'organise les différents layers dans mon Salesforce, dans mon machin, etc. Bon, c'est des sujets passionnants et sur lesquels il faut se pencher très fortement, toujours dans une optique de surorganisation de la boîte et d'être très proche de la data et de vraiment comprendre ce qui se passe dans ton organisation. Des énormes chantiers qui arrivent et ça a beaucoup de sens pour une organisation qui est sur ces deux continents-là d'avoir un seul référent pour pouvoir traiter l'intégralité de ces sujets, parce que sinon tu as vite deux plantes qui grandissent en parallèle et qui grandissent pas de la même façon, mais tu perds en efficience énorme. Donc moi, mon job, c'est de faire en sorte d'avoir deux arbres qui poussent exactement de la même façon autant que faire se peut, d'avoir les mêmes recettes des deux côtés et d'être sûr de, quand tu investis X euros, d'avoir à peu près, ou X dollars, d'avoir à peu près la même efficacité derrière, quoi.
Dans les scale-up qui vont le plus vite, aujourd'hui, il y a de plus en plus ce réflexe de réfléchir très vite aux États-Unis, alors qu'il y a quelques années, on voulait d'abord conquérir l'Europe avant même de commencer à regarder ce qui se passait de l'autre côté de l'océan. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil pour les grosses séries B, voire séries C, qui commencent à se dire que les US, c'est important pour eux?
Ouais. Donc, le premier conseil, c'est que pour lancer les US, il faut qu'il y ait un des founders qui soit sur place. Sans ça, je pense que c'est quasiment impossible d'avoir la focalisation suffisante pour réussir à craquer ce marché-là.
C'est un donc marché... Christine, pour vous, en l'occurrence.
Chez nous, exactement. C'est Christine qui habite à Atlanta et qui pilote les opérations américaines depuis Atlanta. Et qui s'est entouré d'une équipe de personnes américaines. La deuxième chose, en tout cas sur les États-Unis, c'est qu'il faut se rendre compte que c'est pas un marché qu'on fait à moitié. C'est un marché qui coûte énormément d'argent, qui coûte énormément d'investissement. Il y a un coût d'apprentissage qui est monumental. Si vous pensez que la concurrence est féroce en Europe, partez du principe que c'est x10 aux États-Unis, tout simplement parce que par rapport à ce que nous on connaît. En France, les États-Unis, c'est x6 ou x7 en termes de nombre d'habitants, en termes de PIB, c'est encore x fois plus. C'est un pays qui est ultra costly, tant en termes de ressources, qu'en termes de cash, qu'en termes d'humains. C'est un pays où c'est difficile de recruter. Vous êtes personne là-bas. Nous, on a levé 24 millions de dollars en seed. Quand on disait ça à des candidats, c'est naturel pour eux. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, nous, on était ultra contents et on disait c'est exceptionnel.
Vexé, quoi.
Mais tu hallucines, tu n'es rien, tu es un microbe aux États-Unis et même après une levée A, enfin une série A de 100 millions, tu es toujours personne. Donc il faut vraiment se rendre compte de ça et que moi je suis épaté par le travail qu'un Aircall fait aux États-Unis, etc. C'est des beaux succès, quoi. Bravo et félicitations. C'est des marchés qui sont durs à percer. En revanche, l'autre face de la pièce, c'est que nous, les premiers restaurants qu'on a mis en service aux États-Unis, les niveaux de transactions journaliers qu'on a vus dans ces restaurants, bah, c'est pas la même chose qu'en Europe, quoi. Parce qu'un resto aux États-Unis, c'est 10 restos en France. C'est impressionnant, en fait. C'est vraiment c'est un autre monde, tout simplement.
Mais c'est vrai que quand tu reprends un peu les exemples de succès de scale-up française aux US, il y a toujours cette constante d'avoir un des fondateurs sur place. Aircall, tu l'as dit, il y a quelqu'un. La patronne de Front est basée aux US. Algolia, c'était pareil. Mm-hmm. Voilà, il y a toujours cette constante-là qui revient.
Sinon, ce qui se passe, c'est que vous allez recruter quelqu'un qui va partir, qui va faire du mauvais travail, ça va vous coûter une fortune. Il va partir. C'est très, très dur d'embarquer quelqu'un dans la vision à 6h, 8h, 9h de décalage horaire. C'est très, 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 très dur.
Hyper intéressant. Merci mille fois, Kevin, pour ce grand, grand tour de ton actu chez Sunday, de celle de Sunday globalement. J'ai trois petites questions rituelles pour conclure ce podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais une ressource business à partager à nos auditeurs?
Alors, qu'est-ce que tu appelles une ressource?
Un bouquin, un podcast, une personne à suivre sur un réseau social.
Donc, dans les podcasts, au-delà du tien, bien entendu, moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui est Dans l'Arène, qui est un podcast très sales, etc., que je trouve très bon.
Tu as fait un super épisode d'ailleurs.
J'ai accepté avec grand plaisir l'invitation et j'étais honoré de le faire. Dans les bouquins, bon, il y a un bouquin qui n'est pas forcément sales driven, mais que je conseille vraiment à chaque fois, qui s'appelle La 25e heure, qui est rédigé par Baudin, quelqu'un d'extraordinaire également. Et un autre bouquin que je trouve très bien, c'est The Sales Acceleration Formula, qui est un bouquin excellent que je vous invite vraiment tous à lire, qui est très simple d'accès et qui permet de bien structurer sa pensée commerciale.
Une ressource non business pour se changer les idées?
Marcher dans la rue, se balader, je vous conseille ça fait du bien. Quand vous avez du mal à craquer des sujets, moi parfois quand j'arrive plus, etc., je vais marcher. Un quart d'heure, je regarde pas mon téléphone. Je trouve que c'est une ressource non business que les gens n'utilisent pas suffisamment.
Elle est pas mal, je la garde. Et dernière question, est-ce que tu aurais une reco de quelqu'un qui pourrait prendre ta place avec brio derrière le micro?
Je vais te suggérer d'inviter Ralif Ibrahim, qui a brillamment pris son poste dans une licorne de plus de la French Tech. Et je l'invite à venir se confronter à ton micro, Younes.
Ralif, t'es le prochain. Merci mille fois, Kevin. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Et je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de Lieutenant. Si ça vous a plu et que vous voulez nous aider, vous pouvez le partager à 3 personnes autour de vous, inscrire vos amis de force au podcast sur leur smartphone et me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un gentil commentaire. C'est ça qui me rendra visible dans les classements. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez m'écrire à younes@avisio.fr et je vous enverrai le lien de l'épisode à sa sortie. Aussi, si vous ou vos équipes voulez être accompagné par un des meilleurs managers de la tech pour monter en compétences sur votre métier et apprendre les techniques des meilleures boîtes de la place, Avisio Mentoring est là pour vous à la même adresse. Je suis Younes Elgarty et je vous dis à bientôt.